Alors, je commencerai cette intervention par une citation de François Lemasson du Parc, que vous connaissez peut-être. C'est une source absolument essentielle quand on travaille sur le littoral. Alors, le nombre des pêcheurs de Plérin, en Plérin, c'est une petite paroisse rurale à côté de Saint-Brieuc, que nous avons vérifié, se monte à 40 personnes, dont plusieurs d'entre eux sont classés et quelques-uns navigateurs terre-neuviers. Ceux qui ne sont point dans ce cas sont tendeurs à la basse eau, donc sont des pêcheurs hein, de pied. Et pêcheurs de pied, donc dans la baie de Saint-Brieuc, ces derniers sont aussi comme ceux de Port-Dic, petits laboureurs et occupés à la culture de leur terre. Quelques-uns s'emploient à la pêche pendant toute l'année et n'ont point d'autre profession. Donc c'est dans ces termes que François Lemasson du Parc, inspecteur général des pêches du poisson de mer pour les provinces de Normandie, Flandre, Picardie et Bretagne, évoque en 1731 les pêcheurs de Plérin près donc, de Saint-Brieuc. Alors, ses attributions sont très vastes. Il doit, entre autres choses, recenser tous les pêcheurs des paroisses littorales, ce qui n'est pas une simple affaire, hein, puisque à la lecture de ces procès-verbaux rédigés très, très consciencieusement, on voit qu'il est vraiment très déstabilisé par des identités qui sont fort brouillées sur le littoral. Vous en avez un aperçu ici, qui est vraiment marin, qui est vraiment laboureur. Est-ce qu'on n'a pas une majorité de personnes qui finalement pratiquent les deux activités? Là, c'est toute la question. Et donc là, c'est vraiment la difficulté concrète à laquelle il se heurte. Alors, il s'est déjà heurté à cette difficulté en 1726, lors de sa première tournée sur les côtes nord de la Bretagne. En fait, il a fait tout le littoral de la mer du Nord, de la Manche. On a d'ailleurs ses procès-verbaux hein, pour la Normandie et la Bretagne. Puis ensuite, il est descendu jusqu'à Bayonne. Et donc, là, on voit bien des activités qui, entre terre et mer, qui s'entremêlent et qui illustrent toutes les possibilités qu'offre la situation d'interface du littoral. Et c'est là tout l'intérêt d'étudier le littoral et ses habitants. Donc, ces opportunités entre terre et mer brouillent les identités, notamment dans les vastes portions de littoral situées entre les places portuaires, petites et grandes, donc les paroisses rurales, qui ont été finalement assez peu étudiées jusque-là par les historiens maritimistes ou les historiens du littoral. En effet, la possibilité de choisir et de naviguer ensuite entre horizon terrestre et horizon maritime incite à s'interroger sur la place des gens de mer au sein des sociétés littorales et rurales et également sur la manière dont s'articulent ces activités terriennes et maritimes. Alors, les côtes nord de la Bretagne au XVIIIe siècle se prêtent particulièrement bien à cette analyse puisque la Bretagne est réputée province maritime au XVIIIe siècle. Elle fournit un tiers des effectifs de la Royale en 1784, notamment ces côtes nord qui sont vraiment considérées par le pouvoir royal comme une pépinière de matelots. D'autre part, travailler sur le XVIIIe siècle offre la possibilité de disposer de sources émanant d'institutions désormais bien implantées sur le littoral, bien établies. Tout d'abord, les classes de la marine, on reviendra dessus après, donc qui ont laissé de très belles matricules des classes. Donc, quand on connaît bien, hein, je crois qu'André Zisberg avait fait tout un travail de recensement. Et puis également, archives laissées par les amirautés bretonnes, créées en 1691. Hein, par exemple, le fonds de l'amirauté de Saint-Malo est particulièrement riche. Alors, ces sources s'ajoutent aux rapports rédigés par des représentants du pouvoir royal, tel le maçon du parc, mais aussi aux archives de l'intendance, aux archives des juridictions seigneuriales établies sur le littoral, qu'on appelle les juridictions riveraines de la mer, et puis également les minutes notariées. Donc cette communication s'articulera en trois parties. Tout d'abord, l'intégration des gens de mer au sein des paroisses littorales. Là, j'aborderai un peu la stratigraphie, c'était le thème de ce séminaire. Ensuite, les ressorts aussi qui expliquent ce choix de se tourner vers la mer, qui n'est pas toujours un choix finalement. Et puis en dernière partie, les implications de ce choix, notamment pour les marins vivant en couple et ayant une famille qu'il faut bien faire vivre. Donc tout d'abord, les marins au village, ce qu'on peut tout d'abord parler de paroisses de marins. Alors il faut tout d'abord trouver des sources pour cela, ce qui n'est pas évident. Et à mon sens, les sources fiscales sont les plus intéressantes. Encore faut-il en trouver et trouver un impôt le plus large possible, hein, ce qui n'est pas toujours évident. Donc je rappelle qu'en Bretagne, la taille n'est pas appliquée. Hein, la province est exemptée. Donc je me suis reportée sur la capitation créée en 1695 et j'ai essayé de travailler plutôt en dehors des grandes places portuaires qui ont alors des rôles de capitation plutôt étoffés, mais voilà, pour essayer justement d'étudier ces paroisses rurales. Or, le problème qui se pose d'emblée dès que l'on regarde ces registres, c'est l'absence de profession, qui n'est pas mentionnée, j'en ai vu plein, et très peu correspondait vraiment à ce que je cherchais. Des professions indiquées une fois sur 20, une fois sur 30, donc c'est inexploitable. Autre problème qui se pose, la pluriactivité, puisque les marins ne se déclarent pas toujours comme tels, hein, ce n'est pas forcément leur intérêt non plus. Et puis également, les termes utilisés par les collecteurs des impôts, ils ne sont pas toujours très clairs. Alors, bon, pêcheur, matelot, capitaine, là, on n'a pas d'ambiguïté. Par contre, des termes tels que marinier, navigant, posent davantage de problèmes. Par exemple, à Saint-Jouan-des-Guérés, on n'est pas loin de Saint-Malo, le terme générique navigant désigne tous les marins, y compris les capitaines. Et là, le niveau social n'est évidemment pas le même. Alors, on peut quand même soupçonner un sous-enregistrement des gens de mer. Alors, en tout cas, partout, il s'avère que les marins sont minoritaires dans les paroisses. Hein, ils forment moins de 10% de la population des contribuables payant la capitation. Mais la capitation est quand même un impôt suffisamment large pour être pris en compte. Moins de 10%, et le maximum est atteint à Cancale, donc près de Saint-Malo. Là, j'ai atteint à peu près un tiers de la population. Mais Cancale relève vraiment de l'exceptionnel. Alors, pour Cancale, on est dans les normes qu'avait trouvées Alain Cabantous dans son étude sur les quartiers de Dunkerque et du Havre. Par contre, pour les petites paroisses rurales, là, on est bien en dessous. Alain Cabantous avait avancé des chiffres de 35-40%, éventuellement 20-25%. Là, on est vraiment à moins de 10%, donc ce qui est très peu. Donc on se rend compte que dans toutes ces paroisses rurales, en tout cas dans la plupart, les métiers de terrien dominent. Métiers de la terre, hein, tout d'abord, à 25%, par exemple, à Saint-Jouan-des-Guérés, artisans, commerçants, des domestiques. Et même les métiers du paramaritime sont assez peu développés. Alors, ils sont présents quand même. Alors, c'est vraiment en fonction de la localisation de la paroisse. Par exemple, à Langueux, près de Saint-Brieuc, on a des sauniers qui travaillent le sel, des poissonniers à Cancale, puis sans oublier les charpentiers de navires, par exemple, qui travaillent à Saint-Servant, par exemple, mais qui habitent Pleurtuis, donc près de Saint-Malo, et qui, eux, font de vraies migrations pendulaires, pour reprendre un terme très anachronique, puisqu'ils prennent le bac tous les jours, hein, tout simplement, le bateau de passage. Donc on voit que les paroisses du littoral sont avant tout des paroisses comme les autres, dans lesquelles les métiers marins demeurent quand même très importants, bien qu'elles puissent comporter des champs professionnels spécifiques. Et de la même manière, ces marins sont tout autant disséminés dans les villages. On n'a pas vraiment de village de pêcheurs à proprement parler. On pourrait imaginer que, par exemple, des petits ports, par exemple la Houle à Cancale, concentrent tous les pêcheurs, tout simplement par facilité, c'est le côté pratique, ils pratiquent la pêche. Donc ils vivent en bord de mer, pas du tout. En fait, la Houle concentre 20% de pêcheurs. On a un autre village qui est un petit peu plus éloigné, donc de la mer, qui en concentre 15, et le troisième 8%. Donc les pêcheurs sont vraiment disséminés dans l'ensemble des paroisses. C'est aussi ce que constate le maçon du parc lorsqu'il perquisitionne dans les maisons de pêcheurs pour vérifier la taille des filets. Il dit où il se rend, et là on a des villages qui se situent finalement dans toute la paroisse. Alors là, c'est vraiment la différence avec les villes portuaires, où en général les marins sont regroupés dans des quartiers. C'est ce qu'avait avancé Alain Cabantous. Et puis l'identité maritime, finalement, de ces individus est assez peu affichée. Alors certes, le corps est marqué par la mer, là, c'est certain, hein, le soleil hale les visages, marque aussi davantage. Les maladies laissent des séquelles. N'oubliez pas que le scorbut provoque un déchaussement des dents. On a aussi des problèmes de rhumatisme d'hernie aussi, hein, surtout quand on travaille à Terre-Neuve, à pêche, sont toujours les mêmes gestes répétés, sans oublier les accidents et les blessures provoquées, par exemple, par les combats, puisque les marins sont levés au service du roi. Par exemple, un jeune mousse d'étape se retrouve quand même à 18 ans avec le bras coupé au ras de l'épaule, parce qu'il est tombé d'une hune d'artimon, hein, donc tout simplement. On a aussi les boulets aussi qui font beaucoup de dégâts. Alors, j'ai recherché, donc, au-delà de cette identité qui transparaît difficilement sur le corps, on n'a pas beaucoup de descriptions, malheureusement, des indices matériels, justement, pourraient montrer que c'est comme si bon, je voulais savoir si ces marins revendiquaient finalement, ou en tout cas montraient, ne cachaient pas leur appartenance au monde de la mer. En fait, c'est franchement pas évident. Alors la source principale, là, ce sont les inventaires après décès. Alors là, le principal problème rencontré, c'était la profession qui n'est pas toujours indiquée. Donc j'ai trouvé un biais, c'est travailler plutôt sur des périodes de guerre, puisque là, dans ce cas-là, quand les officiers, quand le greffier de la juridiction vient au domicile du marin pour, par exemple, faire une apposition de scellé, il est bien mentionné que, par exemple, le marin est parti au service du roi ou est prisonnier dans les prisons d'Angleterre, etc. Donc là, ce sont des biais, en fait, qu'il faut trouver. pour essayer de saisir ces marins. Alors ça reste, finalement, cette identité maritime reste assez discrète, puisque certes, on trouve des outils spécifiques qui peuvent être entreposés, par exemple, en dehors du logement. Je pense aux filets de pêche qui sont mis à sécher sur les murs des maisons à l'extérieur. Mais mis à part ces filets, il est difficile vraiment d'identifier des maisons de marins. Alors quand on rentre à l'intérieur, on voit en général, d'après les inventaires après décès, un coffre de mer. Sauf que, a priori, le coffre de mer est parti avec le marin. Donc les coffres de mer que l'on trouve quand les marins sont absents sont des coffres qui sont déclarés inutilisables, qui n'ont plus de ferrure, qui ne ferment plus, et qui sont réutilisés par la famille pour stocker des vêtements, des réserves de grains, etc. Ces coffres de mer, c'est vraiment la pièce que l'on retrouve le plus dans les inventaires. Mais après, il faut se méfier parce que ça ne veut pas forcément dire qu'on a que l'on a un marin à la maison. Ça peut être aussi un coffre qui a été hérité d'un parent. Hein. Donc là, il faut être plutôt prudent. On trouve également dans les intérieurs des outils, barres de drague, voiles de barque, par exemple. Les filets de pêche sont aussi entreposés à l'intérieur quand ils sont secs. Et puis les maîtres de barque, les membres de l'état-major et les pilotes, ils déposent également leurs cartes de marine. Et certains se servent même de ces cartes comme objet de décoration. Par exemple, chez un marinier de Roscoff, une carte était encadrée. Et, même chose chez un riche capitaine de la Compagnie des Indes. Il avait mis de vieux flambeaux de mer dans son cabinet. Alors ces marins ont aussi des souvenirs de voyage. Par exemple, les meubles fabriqués à l'étranger ou faits de bois exotiques. On trouve par exemple des chaises en rotin, du bois de cèdre, du bois des îles. Et puis, plus par petites touches, des objets, une figure de perroquet par exemple, chez un navigant de Cancale, un chapelet de coco. Donc voilà ce qu'on peut trouver. Alors ces marins arborent également des habits en général plus colorés, tout au moins pour les membres de l'état-major qui en ont les moyens, donc étoffes colorées, imprimées. Et alors certes, l'usage de ces tissus n'est pas spécifique non plus aux gens de mer. On les retrouve finalement parmi les élites. Mais en tout cas, ils ont un accès à la source d'approvisionnement beaucoup plus facile, hein, donc grâce à leur activité. Et puis ce qui prime également, toujours chez ces gens de mer, c'est la solidarité paroissiale, hein, par rapport à la solidarité du port. Je me suis posé la question, finalement, de marins, quand ils se rencontrent, s'ils ne se connaissent pas, est-ce qu'on a tout de suite une connivence qui s'instaure, qui serait créée par l'expérience commune de la mer ou l'expérience aussi de la guerre sur mer, hein, puisque le service du roi est commun pour tous ces marins. En fait, pas du tout, ou très peu. Ces marins, quand ils reviennent à terre, ils réendossent leurs habits terriens. Et alors évidemment, c'est valable pour des marins qui ont une famille à terre, pas pour les marins gyrovagues, hein, qui passent d'un port à l'autre. On en a aussi quelques-uns qui sont comme ça. Mais la plupart, quand ils reviennent, redeviennent vraiment des paroissiens comme les autres. Et dès qu'un problème se pose dans la paroisse, par exemple face à un étranger qui plus est un marin, eh bien ces marins de la paroisse font bloc contre cet étranger, bien qu'il soit marin lui aussi. Donc là, c'est vraiment flagrant. Hein, j'avais le cas d'un marin normand, justement, qui voulait rejoindre sa famille à Granville, qui passait par Cancale. Il avait passé 5 ans dans les prisons d'Angleterre. Il y a eu un problème à Cancale, il a bu un petit coup de trop, il était complètement ivre, il a provoqué une bagarre générale. Et à Cancale, tout le monde s'est ligué contre lui. Donc il ne faut vraiment pas chercher de connivence. Alors, néanmoins, ces marins, même s'ils sont minoritaires dans les villages, ont quand même des situations sociales très contrastées. On peut vraiment parler... On est vraiment entre l'opulence et la pauvreté. Alors, en fait, la hiérarchie du bord se calque sur la hiérarchie sociale à terre. C'est ce que vous voyez ici, hein, sur donc un graphique que j'ai fait à partir donc de cotes de la capitation payée par 299 contribuables. Là, on a vraiment des cotes très étalées entre des marins qui ont à peine, qui payent moins d'une livre, donc ce qui est vraiment très très peu, et puis l'opulence qui est supérieure à 15 livres. On a même un marin qui paye 43 livres, donc 10 sols, donc de capitation. Alors on voit que les 4/5 des cotes sont inférieures à 8 livres, avec un gonflement autour de 3-4 livres, et avec un amenuisement progressif en haut, et puis également vers le bas. Donc on peut dire que la majorité des gens de mer se situent dans les indépendants précaires qu'avait défini Jean Pierre Gessen pour le monde rural, mais je trouvais, c'était dans le colloque sur les stratigraphies, qui s'est tenu à Rennes une vingtaine d'années maintenant, qui était très très intéressant. Et donc il avait fait ce tableau. Je trouve qu'il y a une très bonne base d'analyse pour la société rurale et qu'on peut appliquer aux sociétés littorales. Donc là, on est vraiment dans les précaires, voire les indépendants précaires, hein, ici. En tout cas, beaucoup vivent un quotidien plus que difficile. Donc les plus basses cotes sont acquittées par les matelots qui côtoient les journaliers et les domestiques. On est vraiment à ce niveau-là. Parfois, ils sont même moins taxés qu'eux. C'est le monde des dépendants. Ensuite, on passe aux indépendants précaires avec quelques matelots qui s'en sortent plutôt bien à Cancale. Et là, on est au niveau des artisans et des commerçants de la paroisse. Quelques laboureurs également. On retrouve également entre 3 et 4 livres des mariniers. Donc là, ce sont des officiers mariniers qui ont une spécialisation à bord. Donc là, c'est logique qu'ils payent davantage puisque leur salaire est plus important. Et puis, petit à petit, à partir des 10 livres, ces mariniers disparaissent pour laisser place aux maîtres de barque ainsi qu'aux capitaines de navire. Et donc, les capitaines de navire, plus encore que les maîtres de barque, on peut vraiment les classer dans les élites rurales, mais ce ne sont pas non plus, sauf exception, des élites vraiment des élites très très fortunées. Hein. Bon, on verra, il y a quelques exceptions. Alors, ces écarts sont confirmés par les inventaires après décès. Donc là, ventilation, donc des montants. Là, c'est la même chose. Donc, on va du dénuement le plus total jusqu'au luxe même. 7 livres possédés par la veuve d'Olivier Legac au moment de son inventaire après décès, ce qui est très peu. En fait, elle a tout vendu pendant la maladie de son mari. Donc, elle n'a plus rien. 7 livres, c'est... vraiment le dénuement, et plus de 31 000 livres pour un capitaine de la Compagnie des Indes établi à Cancale. Alors près de 60% des inventaires, on le voit, sont inférieurs à 500 livres, ce qui correspond à des niveaux de vie modestes quand même, voire à une pauvreté extrême pour les marins qui sont en dessous des 100 livres. Alors là, c'est pareil, hein, j'avais des gens de mer, mais sans profession précise indiquée, donc c'est la rubrique inconnue, malheureusement. Donc là, on n'avait pas de détails. Mais donc on retrouve donc les matelots, les pêcheurs qui sont à peu près au même niveau, les bateliers, ensuite les officiers mariniers, les maîtres de barque et les capitaines. Alors, ce qui est intéressant quand même dans les inventaires après décès, c'est qu'on peut observer des phénomènes de déclassement et des phénomènes aussi d'ascension sociale. Alors, ça, c'est plutôt intéressant. Par exemple, des capitaines de navires qui vont se retrouver plus ou moins en rang des matelots pour le montant de leur inventaire. Et avec toujours cette différence entre les maîtres de barque et les capitaines de navires. Les capitaines de navires sont toujours largement au-dessus. En général, ces capitaines de navires, donc, ils se situent au niveau... Alors, Alain Cabantous disait au niveau de la petite et moyenne bourgeoisie urbaine, mais je pense que dans les paroisses rurales, on est quand même un petit peu au-dessus. Et encore, tout dépend de l'activité pratiquée. Un capitaine de vaisseau de la Compagnie des Indes gagne beaucoup mieux sa vie, qu'un capitaine morutier, par exemple. Alors, j'ai recherché aussi les marqueurs sociaux pour voir si ces marins avaient finalement la même stratégie que les terriens pour affirmer leur niveau social. Et donc la réponse est oui, c'est-à-dire qu'ils vont avoir, pour les plus aisés, des objets en nombre, par exemple les meubles, là on dépasse largement la gamme du superflu, et ils vont avoir des objets, des meubles, par exemple, que les autres n'ont pas. Alors, les meubles de base sont multipliés, le lit, l'armoire, les chaises, les coffres, qui sont en général de meilleure qualité, en meilleur état. On note aussi un souci de raffinement avec des garnitures de cuivre, par exemple. Et puis, on retrouve dans leurs inventaires d'autres meubles beaucoup plus rares, guéridons, pendules, petites tables pour prendre du café, secrétaire, bureau, fauteuil de commodité, par exemple, des tables de jeu. Et en général, les intérieurs des marins les plus aisés, donc les capitaines de navires, vous l'avez compris, sont assez décorés, assez... clair. On va retrouver, alors autant chez les matelots, par exemple, qui n'ont pas beaucoup d'argent, les intérieurs sont peu décorés, on va retrouver quelques images au mur, mais guère plus, miroirs parfois. Pour les plus aisés, beaucoup de couleurs, des tapisseries, des rideaux à fenêtres, des rideaux autour de lit, des tapis, et même des objets qu'on ne retrouve pas forcément partout, des fontaines, des pompes à eau, donc qui ont pour objectif de montrer, marquer vraiment leur statut social. Alors on retrouve quand même ces marqueurs à l'unité dans des intérieurs plus modestes. Ils marquent là la volonté d'une ascension sociale, ou alors ils témoignent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'un déclassement en fait. Donc des gens qui ont bien vécu à un moment, puis qui ont été amenés à se débarrasser, à vendre un certain nombre d'objets qui en ont gardé quelques-uns. Donc là, la hiérarchie est confirmée, donc la hiérarchie esquissée par les rôles de capitation est confirmée par les inventaires après décès. Donc tout en bas, on a les matelots et les pêcheurs, les officiers mariniers ensuite, les maîtres de barque, les membres de l'état-major, avec vraiment une figure qui s'en détache, le capitaine. Alors évidemment, les salaires maritimes ne sont pas l'unique explication expliquant le niveau de vie des marins inter. Plusieurs facteurs se combinent. Le capital de départ, dont dispose un individu, tant financier que relationnel, son sens des affaires également, sa capacité à saisir des opportunités, et puis également les aléas de la vie. Donc on peut se demander quel est l'intérêt finalement d'embrasser une carrière maritime. Comment expliquer ce choix? Alors tout d'abord, la question de l'appel du large. Pourquoi embarquer? Pour de très nombreux marins, le choix de la navigation ne répond pas à un irrésistible appel du large. Là, vous retrouvez des arguments qui ont été très développés, des arguments touristiques hein, surtout, qui ont été développés depuis. Mais non, on ne peut pas vraiment parler d'appel du large. En fait, ce qui explique, ce qui explique ce basculement vers une carrière maritime, c'est tout simplement, au départ, la familiarisation précoce avec la mer. La mer fait partie de l'environnement quotidien, familier. On a, par exemple, des matelots de Roscoff, qui sont fils de laboureurs, mais qui ont fait la pêche depuis leur enfance. Donc une familiarisation avec la mer, à travers, par exemple, la pratique de la pêche à pied, la proximité d'un port, et puis aussi le fait de côtoyer des gens de mer peut aussi donner une image positive, hein, tout simplement, du métier de marin. L'affiliation professionnelle est également importante. Elle joue certainement un rôle, car la mer s'apprend par mimétisme. On le voit par exemple avec les maîtres de barque, hein, qui souvent embarquent avec eux leurs fils, qui viennent, adolescents, ils leur confient, j'ai une affaire par exemple, procédure judiciaire, le maître de barque a confié la barre à son fils pour qu'il apprenne, un fils qui est adolescent, donc a priori il fait ça depuis longtemps, et là on a vraiment des éléments intéressants, alors qui sont disséminés dans les archives, mais autre exemple, un navigant, un garçon qui se déclare comme navigant depuis l'âge de 5 ans, son père est maître de barque, donc là cela rejoint ce que je vous disais. Donc voilà, en gros, les chiffres que j'ai pu établir grâce à la consultation des matricules des classes pour les quartiers de Saint-Brieuc, Morlaix et Roscoff montrent qu'on a à peu près 2/3 de marins qui sont fils de marins. Ça veut dire que le tiers restant n'est pas fils de marin. C'est ça qui est intéressant. Donc une filiation professionnelle, c'est certain, mais pas uniquement. N'oublions pas non plus... Alors, ce qui correspond à peu près quand même aux chiffres qui ont été trouvés par d'autres historiens du littoral, Tim Le Goff, par exemple, qui a travaillé pour la Bretagne, lui, est plutôt dans la fourchette basse, il a 40% de marins, fils de marins, mais Thierry Sozo était près de 60% pour la Seudre. Donc là, on est dans l'actuelle Charente-Maritime. Et puis, même chose pour Alain Cabantos. Alors, autre explication, la fuite. Il ne faut pas oublier qu'un des privilèges des gens de mer, c'est de voir suspendre toutes les procédures judiciaires à leur encontre le temps qu'ils prennent la mer. Donc ça peut être une stratégie. Encore faut-il avoir l'information et aussi un réseau pour pouvoir embarquer. Et en fait, la raison principale, à mon sens, c'est le manque de perspective à terre. Voilà, s'embarquer, c'est saisir une opportunité, faute de mieux, en raison d'une situation familiale difficile, la perte des parents, la pauvreté. Et donc, prendre la mer, c'est une alternative économique non négligeable qui fournit quand même un travail et un salaire. Et elle permet de contourner le rapport à la terre qui est très valorisé, faute de capital foncier ou financier. Alors, un exemple, les deux jeunes fils de Jean Le Daguenel et sa femme, alors ils sont laboureurs à Langrolet, et significatifs, ils n'ont pas de perspective d'avenir. Ils sont dans le dessein, l'un et l'autre, de prendre le parti et l'art de s'embarquer pour la navigation. Et à ce moment-là, leurs parents prennent conscience que, finalement, ils sont à la tête d'une métairie qu'ils doivent exploiter. Je crois qu'ils prennent conscience de leur âge et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire face à cette métairie tout seul. Donc là, on a une tractation qui se fait devant notaire, un contrat, et ils s'engagent, demandent à leurs deux fils de rester à Langrolet et de s'occuper de la métairie contre une pension de 50 livres, versée à chacun d'eux, 50 livres annuels. Donc là, c'était peut-être aussi un moyen pour les deux fils de faire pression aussi sur leurs parents, leur faire une forme de chantage, on s'embarque, parce qu'on n'a rien d'autre, aucune perspective devant nous. Donc là, on voit que la vocation maritime est vraiment subordonnée au rapport à la terre, hein, tout au moins dans les paroisses rurales. Alors évidemment, tout dépend de l'offre hein, pour s'embarquer. Sur les côtes nord de la Bretagne, suivant l'endroit où l'on vit, on peut s'embarquer à la pêche, surtout à la grande pêche, en Terre-Neuve. On peut s'embarquer également au cabotage. La grande pêche et le cabotage sont vraiment les deux activités maritimes les plus présentes sur les côtes nord de la Bretagne. Et puis le long cours, mais le long cours est plutôt spécifique aux grandes places portuaires telles Saint-Malo, évidemment Lorient, mais qui n'est plus sur les côtes nord de la Bretagne. Alors néanmoins, s'embarquer représente des contraintes. Tout d'abord, le service du roi, qui est créé en 1668, qui impose à tous les marins de se faire recenser par l'administration des classes. Donc, des registres sont établis qui sont extrêmement riches, extrêmement intéressants à étudier. Et ces marins sont regroupés dans quatre groupes et ils doivent, sur 4 ans, une année dédiée au service du roi. Ce qui est extrêmement contraignant, ils n'ont pas le droit d'accepter un autre embarquement. Donc ils touchent normalement la demi-solde, mais c'est vraiment très contraignant. L'idée, c'est d'avoir des équipages qui sont entraînés pour faire face à la guerre. Alors, en contrepartie, ils peuvent éventuellement prétendre à une demi-solde s'ils deviennent invalides, quoique les conditions sont quand même assez restreintes. Et puis, ils sont exemptés du logement des gens de guerre et de la milice garde-côte. Donc, ce qui n'est pas... face à la contrainte que représente le service du roi, c'est quand même pas énorme. Alors, le risque maritime est également très présent. On voit, quand on travaille sur les matricules des classes, que les vieux marins se font rares à bord. La moyenne d'âge, c'est entre 25 et 30 ans. Les doyens que j'ai trouvés avaient respectivement 50 ans à Roscoff et 47 ans à Perros-Guirec, ce qui n'est pas vieux pour nous, quand même. Donc là, on voit bien que la plupart des marins sont des hommes jeunes qui naviguent depuis l'adolescence. En gros, on s'embarque à 14 ans à peu près, voire l'enfance pour certains. Et donc, cette disproportion dans les effectifs suggère soit des décès prématurés qui sont réels, soit des interruptions volontaires ou pas de la carrière maritime. Vous l'avez compris, il faut être en forme et en bonne santé quand on embarque. La surmortalité maritime, c'est une réalité. Les marins en sont conscients. Et un accident, on peut toujours se produire. Quand il ne tue pas, eh bien, on peut être handicapé à vie. Et là, la carrière maritime s'arrête de fait. Donc, cela entraîne un retour prématuré à terre. Donc, ce qui veut dire que tous ces marins, quand ils s'embarquent, ils sont toujours en tête quand même que leur situation est précaire et qu'un retour à terre peut être... peut arriver quasiment du jour au lendemain, et donc ça nécessite d'être anticipé. Alors, anticiper le retour à terre, justement. Alors, premier cas de figure, le rejet de la mer. Il y a des marins qui renoncent à la mer, qui abandonnent la mer par dégoût. Vraiment. On en trouve quelques mentions dans les matricules des classes. Un jeune homme, par exemple, les mousses, j'ai travaillé beaucoup sur les mousses parce qu'on était dans le début de la carrière maritime. Je trouvais que c'était intéressant. Un mousse de Plévenon, il est classé à 15 ans. Donc il fait 6 mois de navigation, ensuite il fait du petit cabotage pendant 4 ans. Il tente la grande pêche et il est raflé par Boscawen en 1755, c'est la fameuse rafle de Boscawen au large de Terre-Neuve. Il ne revient qu'en 1760 et il est levé pour l'Orient l'année suivante. Et là, le commissaire du quartier des classes écrit qu'il apprend le métier de tonnelier. Donc là, il a définitivement abandonné la mer. Je crois que son expérience de captivité l'a vraiment dégoûté. Alors là, les conditions de vie à bord sont sûrement aussi fautives. On sait bien que les conditions de vie des mousses sont très, très difficiles. Ils sont souvent, quand ils ne sont pas protégés par un membre de l'équipage, un parent, la plupart du temps, ils servent de souffre-douleur. Voilà, on n'y fait pas beaucoup attention. Alors pour les autres, on prend la mer, pour la plupart des marins, pour mieux revenir à terre, avec des marins tout d'abord qui combinent les deux à travers la pluréactivité. Donc la pluréactivité, c'est l'exercice concomitant de plusieurs activités différentes à un moment donné de la vie. Ces activités sont génératrices de revenus pour celui qui les pratique. Et cette pluréactivité, elle est largement sous-évaluée par les sources. Alors en effet, ces marins n'ont pas toujours le choix entre deux embarquements. La plupart se voient quand même dans l'obligation de travailler. Imaginez par exemple pour le long cours, certes on part de 3 ans, mais les embarquements ne se refont pas du jour au lendemain après. Donc il arrive qu'un marin reste quand même plusieurs mois à terre. Certes, les plus aisés, eux, n'ont pas forcément ce besoin de travailler, mais les autres, oui, on est quand même obligé d'avoir des ressources, un revenu. Donc, il y a plusieurs possibilités. En soi, ces marins vont exercer ce qu'on dirait aujourd'hui des petits boulots, journaliers, par exemple, dans les paroisses rurales, ou alors d'autres sont plus installés. On trouve des cas de marins laboureurs, c'est assez classique, matelots ménagers, et cela transparaît vraiment dans dans les inventaires après décès. Hein. Donc, quand on veut travailler sur la pluractivité, il faut s'amuser à chercher les indices dans les inventaires après décès. Les indices, on les trouve assez facilement. Et souvent, ces marins paysans combinent leur activité d'agriculture avec le textile, en cultivant du lin, du chanvre, et qui ensuite, tout le travail de transformation, de filage est confié aux femmes. Donc là, dans ces combinaisons terre-mer, la hiérarchie du bord se superpose toujours à la hiérarchie à terre, c'est-à-dire que les matelots exercent toujours une activité de même niveau, donc agriculture, artisanat ou commerce. Ils ne vont pas tabler sur une activité qui est à un niveau social supérieur. Donc au mieux, ces matelots sont meuniers, laboureurs, et au pire, ils se retrouvent batteurs en grange ou journaliers. Alors après, la carrière maritime, les marins s'installent. C'est ça qui est intéressant. Donc là, on est dans l'autre phase. Et justement, embrasser une carrière maritime permet une ascension sociale, permet également de contourner le marché foncier. Alors, en général, la navigation permet, enfin, souvent, pour beaucoup, permet d'accumuler un petit pécule au fil des années. Et petit pécule qui peut être investi, on va le voir tout à l'heure, en tout cas qui permet de rentrer au bercail et de s'installer. Deux exemples, François Montfort, issu de Cléder, il s'embarque et à peu près à 35 ans, devient laboureur alors que son père était journalier. Donc là, en plus, on a un cas d'ascension sociale. François Tanguy, toujours fils d'un fermier de Cléder, lui, il fait plusieurs campagnes au service du roi et devient laboureur à 35 ans. Donc on voit bien que voilà, cette période d'embarquement a servi à accumuler de l'argent qui ensuite fournit de l'argent pour pouvoir s'installer. Alors beaucoup de marins également investissent dans le foncier, c'est ça qui est intéressant, ce qui est facilité par le mode de versement des salaires, puisque les salaires maritimes sont versés de façon très ponctuelle, ce sont souvent des sommes relativement importantes, et on peut donc disposer de ces sommes pour pouvoir acheter une pièce de terre, une maison, voire plus. Donc l'idée, quand on investit dans le foncier, c'est de s'assurer des revenus à terme, des revenus complémentaires. Alors, soit en exploitant soi-même la pièce de terre, là, auquel cas on retombe dans la pluractivité, soit en mettant en ferme, en louant cette pièce de terre ou même cette maison, ce qui donne lieu au versement d'une rente annuelle, donc un complément de revenu qui n'est pas négligeable. Et en plus, c'est un bien qu'on peut ensuite transmettre aux enfants au moment de l'héritage. Donc là, finalement, ces gens de mer ont à peu près les mêmes stratégies que les terriens, sauf qu'ils contournent ces stratégies avec cette période d'embarquement qui permet d'accumuler ce petit pécule. Alors évidemment, chacun achète à la mesure de ses moyens, mais en tout cas, pour un matelot, cela rend vraiment possible l'achat. Donc l'accès à la propriété, par exemple, Julien Éon, un garçon marinier de Calfat de Pleurtuy, il devient propriétaire en l'espace de 3 semaines de 3 pièces de terre, ainsi d'un emplacement de maison et étable pour 1 000 livres payés comptant, quand même. En ce qui concerne l'état-major, là, on est plus face à des stratégies d'accumulation, parce qu'en général, ces capitaines de navires sont souvent des gens aisés, ils ont un capital déjà de départ et un patrimoine foncier relativement important, donc eux, ils accumulent, continuent d'acheter, et ils mettent ensuite ces biens en faire-valoir indirect. Alors, sachant que certaines activités sont quand même plus lucratives que d'autres, quand on embarque sur un corsaire, quand on est capitaine de navire corsaire, on gagne beaucoup d'argent quand on fait une prise, beaucoup plus. Donc là, les choix effectués en matière d'embarquement sont vraiment déterminants sur les possibilités d'accès au marché foncier et de même qu'une ascension rapide également dans la hiérarchie du bord. Alors évidemment, embarquer a des répercussions sur les ménages, et on va voir que les femmes de marins en forment un vrai ancrage au village pour ces gens de mer, puisqu'elles sont amenées à développer des stratégies économiques, et à la base de ces stratégies économiques, on va retrouver un bouleversement dans la répartition des activités entre l'homme et la femme. En effet, ces femmes se retrouvent à exercer des responsabilités ordinairement dévolues aux hommes. Gagner sa vie, c'est en général l'homme dans le couple qui amène ce revenu, en tout cas pour les marins ici. Il faut faire vivre sa famille. Et donc ces femmes, en l'absence de leur mari, ne peuvent pas vraiment compter sur les salaires maritimes. Donc éventuellement, un marin peut demander au commissaire aux classes ou à un armateur de reverser une partie de son salaire à sa femme, mais c'est rare. Donc il faut bien qu'elle se débrouille toute seule. Donc il faut bien trouver de l'argent. Il ne faut pas compter sur ses revenus. Alors évidemment, pour des ménages aisés, l'irrégularité du salaire maritime pose peu de problèmes, puisque là, on a d'autres revenus. Par contre, pour la grande majorité des marins, des ménages de marins, cela pose un vrai problème. Et donc cette précarité impose la mise en œuvre donc, de stratégies de survie pendant l'absence pour assurer les besoins de la vie quotidienne. Hein, tout simplement acheter du beurre, acheter vraiment des denrées de base, par exemple, pour nourrir ses enfants. Alors, moi, la question que je me pose quand même, ces femmes, est-ce qu'elles sont préparées à cette vie-là? Je ne sais pas, ça, c'est un chantier que je voudrais bien entamer. Je voudrais bien savoir si ces femmes, ces épouses de marins, sont elles-mêmes filles de marins, pour voir si elles sont habituées, si elles savaient à quoi s'attendre. Parce que, certes, elles sont plus autonomes, on va y revenir, mais c'est quand même difficile. Alors, elles ont recours à des expédients pour subvenir aux besoins de la vie quotidienne. Alors, l'endettement en est un, mais c'est classique. Il est diffus chez les gens de mer, sur les côtes nord de la Bretagne. Bon, dans les inventaires, on le voit, hein, on voit des listes de dettes. Donc, j'en ai trouvé dans 30% des cas. Ce ne sont pas toujours des dettes très importantes. On est la plupart du temps à moins de 25% de la valeur de l'inventaire. Donc, ça ne met pas en péril l'équilibre financier du ménage. Mais en tout cas, ces dettes, pour la plupart du temps, ce sont vraiment les dépenses du quotidien, hein, les impôts avancés par le collecteur, le loyer à payer, l'achat de denrées alimentaires, de chandelles, de savon, le paiement du salaire des domestiques, des petits travaux réalisés. On trouve aussi des dépenses exceptionnelles qui peuvent être liées à une maladie, un enterrement, un mariage, des choses comme ça. Et puis des investissements et des prêts d'argent. Alors pour l'endettement, le réseau social est mis à contribution. On a des cercles de créanciers successifs. Là, je vous renvoie aux travaux de Laurence Fontaine sur le crédit, qui sont extrêmement intéressants. Et en tout cas, on voit que finalement, ces marins se comportent comme les terriens. Ils sont insérés dans le marché foncier de la paroisse, on l'a vu. Ils sont aussi insérés dans le marché du crédit, dans cette toile d'araignée que décrivait Laurence Fontaine. Et peut-être que leur situation crée des circonstances atténuantes, puisque les créanciers doivent se dire qu'ils vont toucher nécessairement des grosses sommes, des salaires maritimes, qui seront peut-être remboursés plus vite que les autres. Bon, ça reste à vérifier. Deuxième solution, deuxième stratégie, la cohabitation, qui repose sur le partage des revenus et des dépenses. Alors, la cohabitation, c'est une notion très contemporaine. En gros, c'est la présence dans un même logement d'une famille conjugale, donc le mari, la femme, les enfants, et avec une tierce personne, en plus, qui vit avec eux. Ça, c'est un phénomène alors que l'on repère pour d'autres catégories sociales, mais qui est particulièrement présent chez les marins, puisque comme la vie conjugale des gens de mer est marquée par des absences en général longues et fréquentes, eh bien, ces femmes-là, souvent, emménagent, ou alors elles continuent de vivre avec, la plupart du temps, une autre femme qui peut être leur mère, une tante, une sœur, par exemple. Et donc, le ménage fonctionne sur ce partage des dépenses et du revenu. Alors, imaginez quand le marin rentre au bout de 3 ans de navigation, par exemple, au long cours, sa femme est habituée à vivre avec sa sœur, il doit renégocier sa place dans la maison. Beaucoup repartent, hein, il faut quand même le dire. C'est pas toujours évident. Hein. Donc là, je renvoie aux travaux d'Yvonne Guichard-Claudic, sociologue qui a travaillé sur les pêcheurs thoniers de Concarneau il y a quelques années. C'était très, très intéressant. Donc voilà. Donc ce n'est pas toujours évident. Et en tout cas, cette cohabitation repose souvent sur un rapprochement de solitude, une solitude temporaire, celle de la femme de marin, puis une solitude définitive. La mère, par exemple, peut être une veuve, ou alors la sœur, c'est une fille majeure. Bon, voilà. En tout cas, c'est un moyen plutôt intéressant et qui est reconnu dans les tutelles et les curatelles qui est reconnu dans les inventaires après décès, parce que souvent la personne tierce a contribué à acheter des meubles, donc ces meubles lui sont restitués au moment de l'inventaire. Alors, autre solution, travailler aussi pour les femmes. Travailler dans les exploitations agricoles, il ne faut pas oublier qu'en l'absence du conjoint, ce sont elles qui font tourner quand même l'exploitation. Hein. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la division traditionnelle des tâches entre sexes est remise en cause, puisqu'en général, revient au mari labour, notamment tous les travaux physiques. Les femmes, elles, s'occupent du cerclage. Là, quand les maris ne sont pas là, elles s'occupent de tout. Donc on a plusieurs solutions. Soit elles font le travail seules, en mettant à contribution les enfants, éventuellement une domestique. Soit elles font faire une partie des travaux. Là, on le retrouve dans les listes de dettes. Un laboureur du coin qui accepte de passer la charrue pour une somme précise. Alors, autre solution aussi, c'est s'associer. Là, c'est plutôt intéressant. C'est quand même à mon avis, une originalité chez ces ménages de Marins pour compenser l'absence. Un exemple, en 1766, Pierre Gauthier, navigant, sa femme, Marie Guilbert et Alain Guilbert, laboureur, on peut voir supposer un lien de parenté entre les deux, signent un bail à ferme d'une métairie de Cancale pour 7 ans, 190 livres par an. La taille de l'exploitation paraît quand même difficilement compatible avec des absences. Donc là, on peut supposer que finalement, la tenue de la métairie revient à la femme et à son frère. Et aucune clause de réserve n'est émise par le propriétaire de la métairie, quand même, dans l'acte notarié. Ça passe tout à fait. Alors pour les autres femmes, plusieurs solutions quand on n'est pas dans une exploitation agricole. On peut chercher des petits travaux, des petites vacations à la journée, à la tâche, des petits boulots, en fait, hein, qui ne sont pas mentionnées comme telles. Ces femmes ne se disent jamais journalières. Elles sont toujours femmes d'eux, mais on n'a jamais de mention de profession quelconque. Et donc, ils sont difficiles à appréhender. Alors, juste un cas que vous lirez plus en détail, mais on peut les voir à travers des affaires dramatiques. Là, il s'agit d'un infanticide. Alors, Louise Amiot n'est pas une femme de marin, c'est une femme de soldat qui est venue s'établir à Cancale. Son mari l'a abandonnée, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais son régiment est reparti, elle ne l'a pas suivi. Et donc, elle commet un infanticide. Et le monitoire permet de retracer tous les petits travaux qu'elle a pu effectuer le temps qu'elle était à Cancale. Et c'est vraiment très intéressant parce que là, on arrive à saisir ces petites vacations qu'elle fait aux côtés de femmes de marins, de veuves de marins, de filles de marins. Également. Donc là, c'est comme si on avait un réseau dans le féminin au sein de la paroisse dans lequel l'information circule. Et elle s'est plutôt bien intégrée dans ce réseau, puisqu'elle est étrangère quand même, hein, Louise Amiot. Donc là, c'est un petit réseau qui fonctionne à l'échelle de la paroisse. Et on voit que ces femmes de marins, un peu dans la difficulté quand même, hein, trouvent ces petits travaux et sont souvent employées par d'autres femmes de marins qui sont plus aisées. Bon, ce qui n'est pas anormal non plus. Alors sur le littoral, on trouve également, en plus de ce que vous avez là, le ramassage des huîtres, donc le ramassage du goémon, voilà. Et puis n'oubliez pas les activités illégales. La prostitution, par exemple, Louise Amiot est accusée de commerce charnel avec des soldats. Et puis également la contrebande de tabac. Souvent, ces femmes servent de petites mains pour convoyer du tabac prohibé. Voilà, elles servent à convoyer à marchandises. Et puis, dernier cas de figure pour le travail des femmes, certaines s'installent ou sont installées. Donc, alors, à la campagne, c'est beaucoup moins varié qu'en ville. On trouve beaucoup de marchandes, par exemple, des revendeuses, des cabaretières, et puis également des nourrices à proximité des villes portuaires, hein, qui voient aussi un moyen de gagner leur vie. Alors, néanmoins, des questions subsistent. Ici, est-ce que ces femmes travaillaient déjà avant d'épouser, par exemple, leur mari, ou est-ce qu'elles se sont mises à travailler à cause de la profession de leur mari? C'est un peu la question. Donc, l'idée, c'est vraiment, en tout cas, de diversifier les revenus au sein du couple. Donc là, on peut parler de pluriactivité, et je crois que le concept est vraiment intéressant quand il est déployé à l'échelle des ménages. Et alors, ces absences des hommes rendent finalement ces femmes beaucoup plus autonomes, puisque tout d'abord, là c'est une question qui est assez peu traitée, elles se retrouvent à s'occuper de l'éducation des enfants. Elles seules désormais détiennent l'autorité parentale, ce qui n'est pas toujours évident. Il faut prendre la décision de les envoyer ou pas à l'école, sachant que ça a un coût. Leur éducation religieuse, décider leur avenir, est-ce qu'ils peuvent s'embarquer ou pas, hein. Certaines sont sollicitées pour que leur fils embarque. Répondre en deux en cas de bêtise ou bien les protéger. Hein. Par exemple, la femme d'une jeune fille d'esprit un peu faible, entre guillemets, qui s'est faite violer, qui dépose plainte à la place de son mari puisqu'il n'est pas là. Donc voilà, donc cette autorité-là n'est pas toujours bien acceptée non plus par les enfants, surtout les garçons quand ils entrent dans l'adolescence. Hein. Donc c'est pas toujours évident. Et alors ces femmes, elles sont plus autonomes également grâce à un acte qui peut être conclu devant le notaire, c'est la procuration. Là, c'est extrêmement important. C'est vraiment une délégation temporaire de pouvoir qui est valable le temps de l'absence. Donc il faut la renouveler, hein, à chaque nouvel embarquement. Je vous ai mis un exemple ici. Et c'est vraiment une brèche temporaire qui est faite à l'incapacité juridique des femmes. Hein. Je rappelle qu'elles ont un statut de mineure sous l'Ancien Régime. Elles ne peuvent pas aller en justice ou aller chez le notaire sans l'autorisation de leur mari. Or, quand il n'est pas là, il faut bien faire avec. Donc l'idéal, c'est lorsque le mari laisse une procuration, en général, c'est dans l'urgence. Il est prêt à s'embarquer. Et donc, cette procuration témoigne des rapports de confiance entre époux. En même temps, quand le couple a des biens fonciers à gérer ou une procédure judiciaire en cours, le mari n'a pas le choix. Il faut bien, de toute façon, confier tout cela à sa femme, qui, a priori, est au courant. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même important pour des ménages qui disposent d'un capital immobilier. Ensuite, alors justement, l'intérêt, c'est de voir est-ce que ces femmes, finalement, se saisissent de ces procurations pour s'en servir. Alors, oui, pour certaines, elles sont amenées à prendre des décisions sans toujours consulter leur mari. Alors là, c'est un peu le mystère. On ne sait pas si le mari a donné des directives avant de partir ou si elles prennent vraiment des initiatives. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir quand on suit un petit peu les études de notaire, c'est que plus d'un tiers des protagonistes sont absents au moment de la signature des actes chez les notaires, donc les hommes. Donc ce sont les femmes qui signent à leur place. Donc ça, c'est quand même important. On a des femmes même qui s'engagent dans des baux à moitié, donc, ou même un achat de maison, hein, donc, ce qui n'est pas non plus négligeable. Et il arrive même que la signature d'actes notariés se fasse uniquement entre femmes d'absence sur mer, en voyage sur mer. Hein, par exemple, donc quand en théorie Louis Lostelier, maître charpentier navigant de Pleurtuy, achète en 1746 une quantité de terre pour 250 livres à Joseph Jarnigon, maître Calfa de Lorient, en fait, ce sont les deux épouses qui signent. Eux ne sont pas là. Donc on ne sait pas quelle était la part d'initiative venant des femmes. Même chose pour un affaissement d'un grand espace de terrain. Il s'agit de la mise en valeur d'un espace inculte. Là, le travail est considérable à faire. On est à Cancale, en 1768, 5 preneurs. Une veuve, un homme et sa femme, et un autre couple. Pendant la signature de l'acte, les deux hommes sont absents. Donc là, vu le travail requis par le défrichement et la mise en valeur de la terre, il est clair que ce sont les femmes qui vont se charger de ce travail, et donc les hommes se serviront de main-d'œuvre d'appoint quand ils seront là, en fait. Donc là, c'est vraiment intéressant. Et puis d'autres femmes bénéficient aussi de cette autonomie temporaire pour réaliser des investissements. Là, vous avez juste un exemple, Geneviève Baudouin, femme de Claude Elvan, noble et capitaine de navire. Donc lui, il est vraiment dans la configuration de la stratégie d'accumulation de biens fonciers. Et sa femme continue quand il n'est pas là. Alors on ne sait pas si elle répond des directives. Même chose, mais elle brasse quand même plus de 2000 livres. Pour, vous voyez, passer des reconnaissances de dette, donc prêter de l'argent, acheter des pièces de terre, une maison, c'est quand même pas négligeable. Et là, cela rappelle quand même la situation des femmes négociantes qu'avait évoqué André l'Espagnol hein, pour Saint-Malo, Nicole Dufourneau, Bernard Michon aussi, ces femmes qui investissent quand leur mari décède. Hein, et cela témoigne, encore une fois, des rapports de confiance entre eux. Alors, en conclusion, on voit que la figure du marin pêcheur, du paysan pêcheur est présente, mais elle est quand même très réductrice au regard des multiples combinaisons possibles associant activités maritimes, paramaritimes ou terrestres, dont la pratique est quand même encouragée par le temps passé à terre entre deux embarquements. Donc, finalement, l'identité des gens de mer est très brouillée dans les paroisses rurales du littoral. Alors, ils ont un caractère minoritaire, ce qui n'arrange pas les choses. Et puis en plus, ils ne cherchent pas forcément à se différencier des autres. Hein. Ça, c'est un point fondamental, bien au contraire. On note néanmoins deux invariants. Le retour à terre qui est toujours envisagé par ces marins, même s'ils prennent la mer. Et le rôle des femmes de marins qui disposent d'une capacité d'action. Là, j'emploierai bien le terme agentivité créée par nos collègues québécois, agency en anglais. Capacité d'action beaucoup plus grande pour ces femmes de marin que les autres femmes de la paroisse, tout au moins durant le temps de l'absence. Donc là, on a vraiment une dichotomie qui s'affirme dans leur vie. Le moment où l'homme est présent, où là, elles retournent peut-être à leur place traditionnelle de femme, et puis le moment où ils s'absentent, où là, elles gèrent vraiment les affaires du ménage. En tout cas, ces absences répétées leur permettent d'accumuler un capital d'expérience qui s'avère fort utile en cas de veuvage, hein, en raison de la surmortalité maritime. Et c'est peut-être aussi une des raisons qui pousse ces femmes de marins, quand elles restent sans nouvelles pendant très longtemps de leur mari, à nier leur décès. Elles ont tout intérêt, en fait, à rester mariées, mais mariées femmes d'un absent, en voyage sur mer, ce qui leur évite... parce que si elles se déclarent veuves, si elles sont encore en âge d'avoir des enfants, elles peuvent subir une pression importante quand même pour se marier. Là, elles sont relativement tranquilles. Alors, par contre, soumises quand même à la surveillance de la communauté, sont les premières femmes soupçonnées en cas d'infanticide. On essaie, les autres femmes de la paroisse guettent la taille du ventre, repèrent tout ce qui est adultère, mais quand même, elles ont une liberté supplémentaire. Donc plutôt que d'évoquer une identité maritime ou même des identités maritimes à l'égard des gens de mer des Côtes-Nord de la Bretagne, peut-être que l'expression « identité du littoral » serait plus juste, tant ces marins restent des marins par intermittence et surtout des terriens dans l'âme. Je vous remercie.